Bienvenue dans l'enseignement La démarche sociologique, panorama des méthodes. Dans ce nouveau module, nous allons voir qu'est-ce qu'un questionnaire. Nous prendrons le temps de distinguer les différences entre questionnaire sociologique, questionnaire à visée de recherche et sondage. Nous travaillerons également comment formuler des questions, comment choisir les questions à poser et ensuite comment mettre en forme le questionnaire. Ainsi donc, nous travaillons aujourd'hui le questionnaire. Le questionnaire sociologique n'est pas un sondage. Aujourd'hui, nous sommes journalièrement abreuvés de sondages par le biais des médias et notamment par le biais de la télévision. Les sondages servent à nous fournir l'état souvent des opinions, à produire une opinion publique sur quelle est la cote de tel ou tel homme politique, quel est le taux de clients satisfaits pour telle entreprise, quel est l'avis ou l'opinion sur telle ou telle chose. En réalité, le sondage vise avant tout à produire des chiffres qui permettent de décrire, qui permettent de faire un état des lieux. Mais ce n'est pas des chiffres qui sont produits dans l'objectif de vérifier des hypothèses, autrement dit, de vérifier si des liens de causalité existent entre une ou plusieurs variables, ou si des liens de corrélation existent entre deux ou plusieurs variables. Pour le dire autrement, le sondage n'est pas une construction scientifique au sens habituel du terme, parce qu'il ne vise pas à produire des résultats de recherche, mais il vise à produire un constat, éventuellement même à mettre en lumière une opinion publique, une majorité au sein de la population française, mais il n'est pas construit sur une problématisation préalable, sur un travail d'état des lieux scientifiques, sur une procédure de construction d'objets scientifiques. Le sondage a souvent donc pour viser de permettre à la fois de déterminer une opinion publique, mais aussi donc d'influencer l'opinion publique, puisque les individus sont toujours sensibles à savoir ce que pense la majorité. Autrement dit, le sondage n'est pas dans un process de démonstration, mais plutôt dans un process soit d'influence, soit de conviction. Par ailleurs, le sondage n'explique pas comment il produit ces chiffres, ni quelles sont les règles ou les conditions de production de ces chiffres, contrairement à un questionnaire sociologique qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche pour laquelle a été rédigé un chapitre méthodologique ou même plusieurs chapitres ou plusieurs encarts méthodologiques. Voilà, pour toute cette raison, on peut distinguer le questionnaire sociologique qui s'inscrit dans une posture de recherche, dans une démarche de recherche, d'un sondage qui s'inscrit dans une démarche à visée publique. Qu'est-ce qu'un questionnaire? Un questionnaire, c'est un ensemble de questions qui a été préalablement formulé et testé. Il a été mis en forme, soit sous format papier, soit en ligne, et il est proposé pour réponse à un panel d'individus, le plus souvent représentatif d'une population mère, dans la perspective de vérifier des hypothèses ou de trouver des corrélations de variables. Autrement dit, le questionnaire n'est pas un outil qu'on a produit sur le coin de la nappe d'un restaurant, c'est un outil qui a été l'objet d'une longue réflexion, notamment pour à la fois choisir les questions, les ordonner, les agencer, les formuler. Et une fois tout cet ensemble d'opérations mises en œuvre, il y a, avant que le questionnaire lui-même soit distribué, toute une phase de tests qui peuvent être réitérées jusqu'à ce que le questionnaire soit jugé valide. La mise en forme sous format papier ou en ligne est elle aussi l'objet de tests. Le fait d'être proposé à un panel d'individus le plus souvent représentatif d'une population mère sous-entend qu'il y a eu une procédure d'échantillonnage dont nous avons parlé lors du précédent module. Et ensuite, Le fait que, il s'agisse de vérifier des hypothèses ou de trouver des corrélations de variables ou des liens de causalité montre que le questionnaire s'inscrit dans une démarche de recherche. Il s'agit de vérifier ou de comprendre. Alors, pour quelle raison la technique d'enquête qui s'intitule le questionnaire est-elle couramment choisie? Le questionnaire est une technique d'enquête qui est particulièrement efficace pour produire une connaissance à un instant T des caractéristiques d'une population, pour objectiver ses conditions de vie, ses modes de vie, pour permettre qu'il y ait un déclaratif des comportements, des valeurs, des opinions. Le questionnaire est également régulièrement choisi lorsqu'il s'agit d'interroger un grand nombre d'individus. C'est quasiment la seule procédure d'enquête sociologique qui permette d'accéder à plusieurs milliers ou plusieurs millions d'individus et de traiter les données qui sont recueillies. Le questionnaire est très couramment choisi également lorsqu'il y a une volonté de représentativité, puisque c'est une technique d'enquête pour laquelle l'échantillonnage statistique et quantitatif est particulièrement facile d'usage. Et enfin, le questionnaire est quasiment systématiquement choisi lorsqu'il s'agit de quantifier des résultats. Alors, les principaux avantages du questionnaire. Le questionnaire est généralement mis en œuvre dans le cadre d'une démarche où un logiciel de traitement de données est mis à disposition, autant dire que une fois les données recueillies dans le cadre du questionnaire rentrées à l'intérieur du logiciel, l'analyse de corrélation, la mise en évidence de corrélation ou de lien de causalité est très facile. Il s'agira ensuite d'interpréter ces liens de corrélation ou ces liens de causalité. Deuxième avantage du questionnaire, c'est de permettre la quantification et la représentativité d'une population mère. Les principales limites de cette technique d'enquête, tout d'abord le manque de profondeur et de richesse du matériau recueilli. Autant dire que dans un questionnaire, le répondant choisissant parmi les options qu'on lui propose, les items qu'il peut cocher, ne donne finalement pas son sentiment personnel, mais répond à un ensemble de sollicitations qui lui sont proposé. Il répond donc à travers les représentations qu'ont construit préalablement le sociologue et qui sont mises à sa disposition dans le cadre du questionnaire. La deuxième limite du questionnaire, qui découle de la première, c'est précisément la grande difficulté qu'il y a à respecter les cadres de référence des enquêtés, c'est-à-dire leur façon de concevoir le réel, leur culture, leur langage, les catégories d'analyse, leur manière d'appréhender la vie quotidienne ou les événements sur lesquels ils sont enquêtés. Très couramment, le questionnaire est avisé d'une population assez vaste et la prise en compte des différences à l'intérieur de cette population est difficile puisqu'il s'agit de produire un outil de comparaison et donc un outil qui se veut identique pour permettre la comparaison entre les différentes populations sondées. Troisième limite du questionnaire, c'est le coût généralement élevé de ce type d'enquête, notamment en raison du temps de passation du questionnaire, du temps d'entrée des données dans le logiciel, et puis simplement du coût du logiciel. Enfin, dernière limite importante de ce logiciel, c'est que toute découverte qui pourrait être faite en cours d'enquête, lors de la passation du questionnaire, ne peut pas être prise en compte et ne peut pas impliquer de nouvelles questions qui seraient introduites dans le questionnaire pour la simple raison qu'elle rendrait toute procédure de comparaison impossible. Le questionnaire est généralement fondé autour de questions fermées. Mais qu'est-ce qu'une question ouverte et qu'est-ce qu'une question fermée? Une question ouverte, c'est une question qui est formulée de telle manière que l'interlocuteur soit très libre de répondre, tant en matière de contenu qu'en matière de choix du vocabulaire. La réponse libre à une question ouverte dans un questionnaire est en général limitée uniquement à l'espace blanc qui est laissé pour rédiger la réponse. La question fermée, quant à elle, est de très loin la plus courante dans le cadre des questionnaires. C'est une réponse standardisée. Autrement dit, c'est une réponse qui correspond à un ensemble d'items qui est proposé à l'enquêté et dans lequel il coche pour signifier ce qui lui agrée le plus. Autrement dit, il coche non pas ce qui correspond à sa façon de voir les choses, mais ce qui correspond le plus à sa façon de voir les choses. Par ailleurs, une question fermée, c'est aussi des contenus de réponse et des vocabulaires choisis par l'enquêteur. Et enfin, le volume de la réponse est extrêmement contraint puisqu'il s'agit uniquement de cocher les petites cases en général. Voici des exemples de questions fermées et de questions ouvertes. Donc j'ai choisi de formuler à peu près le même type de questions, mais sous deux formes différentes. La première question fermée, c'est à votre avis, quels sont les problèmes parmi ceux proposés dans la liste ci-dessous auxquels la France est confrontée aujourd'hui? Là, on voit que l'enquêté n'a plus qu'à cocher ce qui correspond à son opinion. Mais peut-être que, il a aussi des idées complémentaires qu'il n'aura pas l'occasion donc d'exprimer. Dans le cadre de la question ouverte, à votre avis, quels sont les problèmes auxquels la France est confrontée aujourd'hui? On se rend compte que le répondant peut répondre tout à loisir et peut-être qu'il ne proposera aucun des trois items qui lui ont été affichés dans le cadre de la mise en ligne du questionnaire par la question fermée. Donc il n'y a pas équivalence entre poser une question fermée et poser une question ouverte. On n'obtient pas le même type de réponse. Quelles sont les différentes formes de questions fermées? Vous avez les questions qui permettent un choix entre deux possibilités de réponse, qu'on appelle aussi les questions à choix binaire. Vous avez les questions qui permettent un choix entre un panel de réponses, qu'on peut aussi appeler les questions pizzeria. Vous avez la possibilité de ne retenir qu'une ou plusieurs réponses dans un panel de réponses proposées. Vous avez la possibilité de classer les réponses ou pas, et donc de hiérarchiser. Et vous avez aussi la possibilité de choisir sur un échelon d'une échelle d'intensité, d'une échelle de hiérarchie, etc., ou pas. Je vais donc vous montrer comment se formule et se présente ce type-là de questions. Donc la question fermée à choix binaire, vous en avez deux exemples. Question 1, aimeriez-vous quitter votre quartier d'habitation? Oui ou non? Ce type-là de questions qui se termine par une proposition en oui ou non est extrêmement courant. Quant à la question 2, selon vous, la couleur du cheval blanc d'Henri IV est blanc ou noir, est un peu moins courante, mais fait tout à fait partie des standards de ce qu'on appelle une question fermée à choix binaire. La question fermée à choix multiples, que j'ai aussi appelée question pizzeria. Voici un exemple. Lorsque vous vous déplacez pour vous rendre sur votre lieu de travail, vous utilisez. Là, vous noterez que dans la mise en forme, très couramment, il y a des consignes qui sont mises entre parenthèses et dans un format, dans une taille de police inférieure, souvent en italique. Et puis ensuite, donc, vous avez la déclinaison de l'ensemble des options de réponse proposées. Vous noterez que si vous n'aviez pas mis entre parenthèses une seule réponse autorisée, probablement beaucoup d'individus auraient coché 2, 3, voire 4 cases et qu'il aurait été ensuite difficile de traiter les données, ne sachant pas laquelle est la plus courante ou laquelle est la plus choisie par l'individu en question. Voilà, donc quand vous proposez une multitude de questions entre lesquelles il faut répondre, entre lesquels il faut choisir, pardon. Il faut toujours préciser à l'individu s'il est autorisé à une seule réponse, plusieurs réponses, est-ce qu'il peut les hiérarchiser, etc. Toujours être très rigoureux, très clair sur les consignes complémentaires à la question. Question fermée à réponse hiérarchisée. Alors voici l'exemple, pourquoi ne participez-vous pas à la vie associative de votre quartier? La consigne mise entre parenthèses, plusieurs réponses sont possibles. Merci de les classer en les numérotant par ordre de priorité de 1 à 3. Pareillement, je vous prie de noter que le fait de limiter à un maximum de réponses de 3 permet aussi d'avoir un traitement de données qui donnera des résultats intéressants, car dès qu'on dépasse, on va dire, un nombre d'items classés au-delà de 4 ou 5, en général, le nombre d'options qu'il va falloir ensuite classer au regard de l'ensemble des réponses obtenues devient extrêmement important, de plusieurs centaines en réalité de possibilités. Il s'agit de penser en termes de l'ensemble des choix hiérarchiques proposés par l'ensemble des individus qui ont été enquêtés. Et là, vous constaterez que très facilement, que cela fragmente tellement les réponses obtenues qu'il devient impossible d'en générer des tendances. Donc ça devient très peu intéressant à analyser. Donc il vaut mieux limiter, même si vous proposez plusieurs réponses, à 2 ou 3 réponses possibles et rarement au-delà. Vérifiez aussi que votre logiciel a les capacités de traitement de données si vous proposez un classement au-delà de 3 réponses. La question fermée avec échelle d'intensité, que pensez-vous de l'exposition que vous venez de visiter? Très intéressante, intéressante, peu intéressante, pas du tout intéressante. Là, vous constatez donc que cette échelle vous propose 4 échelons au sein duquel vous vous positionnez en tant que répondant. Une remarque, c'est une échelle qui ne comprend pas d'échelon intermédiaire, qui pourrait être par exemple moyennement intéressant, et donc qui ne permet pas à un certain nombre de populations de se réfugier dans une position qui serait neutre. Votre façon de construire l'échelle impose d'être surtout soit dans un pôle plutôt positif de réponse, soit dans un pôle plutôt négatif de réponse. Alors, quand on construit un questionnaire, très couramment, on utilise les questions fermées. On utilise les questions fermées parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à traiter dans le cadre d'un logiciel, parce qu'elles permettent d'établir des corrélations de variables ou des liens de causalité. Mais il arrive que, de manière un peu exceptionnelle, il y ait sur un questionnaire de, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de questions, 1 ou 2 questions ouvertes, parce que ça permet d'accéder à un certain nombre d'éléments d'information qui sont importants du point de vue des objectifs de l'enquête. Donc il y a toujours un choix stratégique à faire entre l'option question ouverte ou l'option question fermée, et il s'agit donc de tout d'abord de prendre la mesure du fait que opter pour l'une ou pour l'autre n'est pas équivalent. Donc vous pouvez demander la même chose à travers une question ouverte ou une question fermée. Cependant, les réponses produites ne sont pas les mêmes. On l'a vu dans l'exemple, il y a quelques slides de ça. Lorsque vous posez une question fermée, vous proposez un ensemble d'items en termes de réponses dans lequel le répondant est obligé de s'inscrire. Autrement dit, il ne vous répond pas le fond de son propre sentiment, mais bien il essaye de vous dire ce qui est le plus près de sa position dans le cadre des items qui lui sont proposés. La question ouverte, au contraire, permet une grande liberté de réponse à l'enquêté. Il vous faut donc choisir entre une question ouverte et une question fermée en fonction de ce que vous voulez savoir, en fonction des objectifs à atteindre. Une question ouverte est généralement posée lorsque l'enquête exploratoire n'a pas permis de déterminer un certain nombre de choses, et donc ne permet pas de poser une question fermée parce qu'on ne connaît pas la liste exhaustive des items à proposer. Ou une question ouverte peut être aussi également choisie parce que une dimension qui est apparue très tardivement dans l'élaboration de l'objet scientifique et qui n'a pas pu être explorée de manière intensive paraît néanmoins judicieuse à travailler, et donc c'est plutôt une question ouverte qui servira d'exploration tout en permettant à l'enquête principale de se dérouler dans le cadre des questions fermées qui sont proposées. Donc, il faut bien comprendre que le questionnaire est avant tout un outil de mesure standardisé. Il vise la comparaison. La comparaison entre différents types de publics où il vise la production d'une typologie d'acteurs en fonction des réponses produites. Autrement dit, le questionnaire suppose un certain nombre de mettre en œuvre un certain nombre de principes, d'être assez rigoureux dans la passation, et notamment, pour que la comparaison soit valide, faut-il que tous les individus aient répondu au même questionnaire et dans les mêmes conditions. Répondre au même questionnaire suppose de ne pas modifier les questions en cours de passation du questionnaire. Pour ce faire, pour ne pas être amené à modifier les questions, il faut-il avoir au préalable testé ce questionnaire avant de débuter l'enquête. Pour que les individus répondent dans les mêmes conditions au même questionnaire, faut-il que les modalités de passation du questionnaire aient été définies préalablement. Et enfin, il faut avoir pensé chaque question pour permettre la mesure d'une ou plusieurs variables, cela en fonction du modèle d'analyse qui a été préalablement établi lors de la construction de l'objet scientifique. Je vous renvoie là, soit au cours produit dans le cadre du raisonnement sociologique par Émilie Potin, soit au module 1 de ce cours dans lequel ces éléments ont été succinctement rappelés. Ceci dit, lors d'une enquête, lors du test du questionnaire, ou lors d'une phase exploratoire de la recherche qui permet de construire dans un deuxième temps un questionnaire qui sera valide, il a été possible donc de produire des questions ouvertes. Démarrer dans le cadre d'une phase exploratoire par des questions ouvertes permet de recueillir tout un panel de réponses auxquelles éventuellement le sociologue n'aurait pas pensé de par lui-même, mais qui seront des items pertinents à proposer aux enquêtés dans le cadre du questionnaire qui sera produit. Aussi, pour passer d'une question ouverte à une question fermée, est-il utile de tout d'abord poser cette question ouverte, de recueillir l'ensemble des items produits par les enquêtés, et ainsi de produire par la suite, dans un deuxième temps, tout un ensemble de réponses qui correspondent à une synthèse des éléments recueillis dans le cadre de la phase exploratoire. Alors, autre réflexion à mener dans le cadre de la production d'un questionnaire, l'item autre. Doit-on utiliser ou pas, et pour quelle raison l'item autre? Alors, très couramment, lorsqu'on lit un sondage ou un questionnaire, parce que c'est très courant dans les sondages également, vous avez l'item autre qui est mis en bout de liste des propositions de réponse et qui permet au sociologue d'obtenir les items auxquels il n'a pas pensé préalablement. Ça pose deux problèmes. Tout d'abord, beaucoup de répondants vont lire la liste des items proposés et vont cocher sans se préoccuper de l'option autre, simplement parce qu'ils sont un peu pressés ou parce qu'ils sont peu intéressés par cette question et que donc ils ne vont pas prendre le temps de la réflexion. Autrement dit, ces répondants-là restreignent le choix du panel proposé. Ils ne répondent pas à la même question que ceux qui vont prendre le temps de réfléchir et de renseigner ou de ne pas renseigner volontairement l'item autre. Donc on se trouve en face d'un problème de procédure de comparaison, puisque la première catégorie de répondants n'a pas répondu à la même question, donc n'a pas répondu au même questionnaire que la deuxième catégorie de répondants. Certains ont pris en compte l'item autre et pas les autres. Autrement dit, vous vous mettez dans une situation en utilisant l'item autre, de rendre la comparaison caduque sur un certain nombre de questions. Le mieux est de remplacer l'item autre par une seconde question qui pourrait être, voyez-vous autre chose à ajouter à cette liste de réponses possibles? Auquel cas, tous les répondants vont répondre à la première question, ils vont répondre également à la deuxième question par oui ou par non, et ils vous proposeront éventuellement des items. Mais là, dans ce cas-là, il est tout à fait juste de dire que les répondants ont effectivement été soumis au même questionnaire. La comparaison devient donc valide. Donc voici un exemple qui permet de retravailler l'item autre de manière à ne pas, on va dire, disqualifier la procédure de comparaison qui viendra dans le cadre du traitement des données. Alors, voici une question, hein. La dernière pétition que vous avez signée provenait d'un site Internet auquel vous faites confiance en matière d'information. Vous avez été présenté par démarchage à votre domicile. Vous avez été présenté par démarchage dans la rue. Vous rajoutez ensuite, au lieu de proposer l'item autre, la question 3. Voyez-vous d'autres réponses à ajouter à la liste des réponses possibles pour la question 2? Et là, soit les individus vous répondent non, soit ils vous répondent oui en ajoutant, puisqu'ils ont l'espace proposé, la liste des items qu'ils auraient cité voir figurer dans le cadre de la question 2. Je vous propose un petit exercice pour introduire le point de réflexion suivant sur la construction et la formulation des questions. Donc, il s'agit de chercher l'erreur de la question 3 ici proposée. Votre premier enfant a entre 0 et 5 ans, 5 et 10 ans, 10 et 15 ans. Pour tout vous dire, cette erreur est quasiment systématiquement retrouvée dans les trois quarts des questionnaires produits par des étudiants. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous présente pas ce point de réflexion de la même manière que les autres et que j'essaie d'attirer votre attention en vous proposant un exercice préalable. Quelle est l'erreur? Eh bien, simplement imaginez que le premier enfant a l'âge de 5 ans. Faut-il cocher la case 1 ou la case 2? Vous mettez le répondant dans l'impossibilité de répondre de manière pertinente à la question que vous avez proposée, simplement parce que vos items sont mal construits. Autrement dit, quand vous produisez des questions fermées qui concernent des quantités, des époques, des âges, etc., il vous faut prendre le temps de vérifier que les réponses que vous proposez sont 1. bien sûr exhaustives, qui a l'ensemble des âges, l'ensemble des époques, l'ensemble des quantités, mais aussi qu'elles sont mutuellement exclusives, ces réponses. Autrement dit, que la réponse 1 ne recouvre pas une part de la réponse 2, qui elle-même ne recouvrait pas une part de la réponse 3, etc. Donc un point de vigilance important à garder à l'esprit. Les questions d'intensité. Les questions d'intensité demandent une réflexion préalable sur une option à prendre. Faut-il proposer ou pas à l'enquêté un échelon intermédiaire, c'est-à-dire un échelon qui aura tendance à être vécu par le répondant comme neutre. Donc, autrement dit, vous avez un nombre pair d'échelons, il n'y a pas de position d'échelon qui serait moyen ou neutre. Vous avez un nombre impair d'échelons, vous avez donc une position médiane qui peut être le refuge des indécis notamment, ou de ceux qui ne souhaitent pas donner leur opinion, ou de ceux qui sont assez indifférents à la question que vous posez. Donc, suivant les objectifs de l'enquête, vous choisirez un nombre pair ou un nombre impair, suivant que vous avez envie de pouvoir estimer la part de la population qui est indécise, indifférente, ou qui souhaite se montrer neutre, ou au contraire, suivant que vous souhaitiez forcer la population à se positionner d'un côté ou de l'autre sur les deux pôles de l'échelle. Question de comportement. Alors, il a longtemps été discuté, notamment en sociologie, sur l'opportunité de proposer des questionnaires de comportement aux individus. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit toujours de déclarations dites déclaratives. Les individus déclarent avoir tel ou tel comportement, dont on sait, lorsqu'on fait des observations ethnographiques, qu'il y a toujours un écart, et éventuellement même un écart important entre ce qui est déclaré et ce qui est effectué. Donc il y a, on va dire, une difficulté à produire un questionnaire pertinent sur les comportements, même si aujourd'hui, la réflexion méthodologique ayant avancé, la sociologie soit davantage au point et que ce type-là de questionnaire devienne de plus en plus courant. Donc, il est possible d'interroger les individus sur ce qu'ils font ou ils ne font pas, mais à condition de ne pas prendre pour argent comptant des déclarations et de ne pas penser qu'un comportement déclaré est un comportement effectué, c'est-à-dire un fait. Deuxièmement, les questions de comportement vont pas pouvoir porter sur ce qu'on appelle les savoir-faire, les tours de main, les évidences ou encore les comportements informels, tout simplement parce que, en général, ce sont des comportements dont les individus ont eux-mêmes finalement peu la mémoire. Ils les produisent très régulièrement, ça la participe à leur vie quotidienne et en même temps, ce n'est pas retenu ou ce n'est pas facilement formalisable. L'individu ne se reconnaîtra pas dans les propositions de réponse que vous lui faites. Autrement dit, un questionnaire de comportement sur des choses qui sont pensées comme des évidences ou qui sont vécues comme informelles, en général, le process même de formalisation pose une difficulté, fait obstacle pour l'individu et pour la possibilité qu'il aurait à se reconnaître dans les réponses que vous lui proposez. Donc, de ce point de vue-là, pour ce type-là de comportement, le questionnaire est peu pertinent. Le questionnaire interroge aussi quant à son utilisation concernant les comportements qui sont, on va dire, des comportements qui pourraient susciter de la honte, de la gêne, qui sont peu avouables, ou aussi les comportements dont il est difficile de les énoncer simplement parce qu'ils sont illégaux et que le reconnaître pourrait mettre l'individu en situation délicate, ne sachant pas ce que va faire le sociologue du questionnaire éventuellement. Ça peut introduire, on va dire, une inquiétude et la volonté d'arrêter de répondre au questionnaire. Voilà, donc pour les questions qui portent sur des comportements gênants, illégaux, tabous, etc., les questions vont faire l'objet d'une stratégie de formulation extrêmement spécifique que nous allons prendre le temps de détailler. Mais uniquement ces questions-là. Ensuite, les questions de comportement peuvent voir leurs réponses faussées simplement parce que les individus répondent en fonction de ce dont ils se souviennent et que, éventuellement, vos questions ne portent pas sur des comportements récents. Donc, nous allons aussi tenter de travailler sur comment faire avec les biais qui sont nécessairement provoqués par la question du fonctionnement cognitif humain, par le fonctionnement de la mémoire. Et nous verrons donc comment formuler ou comment cibler les questions à proposer. Donc, dans le cadre d'un comportement qui n'est pas particulièrement méchant, c'est pareil, ça faudra. Oui. Dans le cadre de questions qui porteraient sur des comportements qui ne sont ni gênants, ni honteux, ni tabous, ni illégaux, etc. Donc des comportements qui sont plutôt de l'ordre du consensus ou du quotidien. Vous pouvez néanmoins travailler la formulation de manière à obtenir les réponses les plus justes possibles. Il va donc falloir prendre le temps de la réflexion. Et là, je vous propose donc un exercice. Entre deux formulations, laquelle choisissez-vous? Choisissez-vous. Habituellement, combien de fois sortez-vous par semaine? Ou combien de fois êtes-vous sorti la semaine dernière? Donc deux formulations très différentes, ce n'est pas exactement la même question, mais ça permet effectivement d'évaluer quelque chose sur les sorties. Alors, quelle réflexion peut-on avoir sur ces propositions? Tout d'abord, si vous formulez votre question avec l'adverbe habituellement, vous constaterez que la question de l'habitude est évaluée très différemment suivant les répondants. Pour les répondants, c'est habituel à partir du moment où ils le font au moins une fois par mois. Et pour d'autres répondants, ça va devenir très habituel uniquement si c'est produit tous les jours. Donc vous comprenez bien qu'avec ce type-là d'adverbe, c'est suffisamment peu précis pour que les individus répondent à des questions très différentes et que donc ensuite la procédure de comparaison ne puisse pas être mise en œuvre. Donc essayez d'éviter tous les adverbes ou toutes les formulations qui ne seraient pas extrêmement précises. Dans ce sens-là, proposez un laps de temps très limité et très circonscrit, comme dans la deuxième formulation, il est proposé la semaine dernière, vous obtenez probablement des réponses beaucoup plus justes. En même temps, la semaine dernière est un laps de temps extrêmement réduit. Alors, vous allez me dire, c'est pas très intéressant. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'était le nombre de sorties en soirée et de manière non pas sur une semaine précise, mais par exemple sur au moins un mois, etc. Oui, mais en général, on choisit des laps de temps relativement courts et peu éloignés du moment de la passation du questionnaire pour les raisons liées aux enjeux de mémoire. Donc, on va y revenir. Donc la semaine dernière est une formulation plutôt intéressante, toujours dans la perspective d'obtenir des données très fiables. Enfin, vous voyez, dans le raisonnement que je viens de tenir, il y a eu de ma part un rajout d'informations sur finalement de quel type de sortie est-il question. Je ne parle pas de sortir pour aller au travail, je parle de sortir de son domicile pour aller soit des activités de loisirs, soit des activités culturelles, etc. Il est toujours important de préciser de quelle sortie vous parlez, simplement parce qu'effectivement, là encore, l'individu pourra avoir sa propre interprétation de ce qu'est une sortie. Voilà, donc être le plus précis possible dans le cadre de la formulation. Autre point, vous rencontrez aussi régulièrement pour ce type de questions. La volonté ou la tendance, pas toujours très conscientisée pour les individus, mais par contre quasiment toujours mise en œuvre, une tendance à vous proposer finalement une bonne image de soi, ou même voire à essayer finalement de vous répondre par un idéal de soi. L'individu, lambda, vous comme moi, avons envie d'être bien vu. Et donc, lorsqu'on vous pose des questions, vous répondez en fonction de votre interlocuteur. Autrement dit, imaginons que vous ayez un questionnaire à remplir portant sur des questions de santé, dans le cadre d'une enquête sur la santé publique, et notamment sur le tabagisme. Vous êtes un jeune garçon ou une jeune fille de 10-11 ans. Et on vous demande si, oui ou non, vous consommez journalièrement une ou plusieurs cigarettes. Eh bien, suivant qui passe le questionnaire, imaginons que le questionnaire vous est apporté par un jeune enquêteur d'une vingtaine d'années qui lui-même a fumé devant vous dans la cour de récréation sa première cigarette de la journée. Vous aurez tendance à imaginer qu'il est plutôt cool sur la question, et puis vous aurez aussi donc la possibilité ou l'envie de lui dire que vous aussi, et que par conséquent, vous allez avoir tendance à répondre oui, effectivement, je fume journalièrement. Par contre, si ce même questionnaire vous est apporté par une personne qui visiblement est bien plus âgé, a une cinquantaine bien dépassée, semble un peu strict dans sa façon vestimentaire de se donner à voir, et aussi un peu rigoureuse dans la manière de vous expliquer le questionnaire, sur la procédure de passation, etc. Probablement que l'aisance ne sera plus la même, mais aussi que vous aurez tendance à penser que non, il vaut mieux pas lui dire, ça serait pas si bien que ça, que vous préférez finalement ne pas tout lui dire. Donc il y a un certain nombre de questions à laquelle vous allez répondre non, mais simplement non pas tant dans l'objectif de mentir que dans l'objectif d'être quelqu'un de bien aux yeux de la personne qui est en train de vous proposer le questionnaire. Faites-vous le même type d'exemple en vous disant qu'est-ce que j'aurais répondu à mon meilleur ami et qu'est-ce que j'aurais répondu à ma grand-mère, et vous verrez que c'est vraiment d'un usage très courant que de répondre non pas en fonction de on va dire, la réponse qui serait la plus vraie à la personne qui vous interroge, mais de répondre en fonction de la personne qui vous interroge et de ce que vous imaginez du jugement qu'elle posera sur vous ensuite. Voilà, donc ça fait partie de la manière de se positionner dans le quotidien journalièrement. Et il faut donc prendre en compte cette façon d'être, qui est très caractéristique de la communication humaine, dans les questions de comportement qui sont extrêmement soumises à la question du jugement. Voilà. Les enjeux de mémoire. Comment travailler les enjeux de mémoire? Ben d'abord, un petit exemple, l'exemple des sondages post-électoraux. On a constaté que la proportion de personnes interrogées se souvenant avoir voté pour le candidat qui a effectivement été élu est beaucoup plus importante que la proportion réelle de votants pour ce candidat. Autrement dit, lorsque vous interrogez les gens un certain temps après un événement, et sur leur événement, sur le comportement qu'ils ont eu pendant cet événement, un certain nombre d'individus se souviennent mal ou se souviennent de manière erronée du comportement qu'ils ont effectivement mis en œuvre. Ce n'est pas nécessairement une volonté de mentir, de cacher, de masquer ou même de paraître quelqu'un de bien. Ça peut. Mais ceci dit, de manière générale, on sait aujourd'hui que la mémoire est un process cognitif qui reconstruit de manière sélective le passé. Et ce n'est pas tant nécessairement par rapport aux répondants que se joue un certain nombre de modifications des faits qui sont enregistrés, mais plutôt en raison du besoin de maintenir l'estime de soi. Voilà. Donc, pareillement, il faut essayer de formuler les questions de manière à permettre une bonne estime de soi de l'individu qui y répondrait de la manière la plus sincère possible. Comment aider la mémoire de l'enquêté? Tout d'abord, on l'a déjà vu dans un précédent exemple, interroger sur une période récente. Deuxièmement, on sait que la mémoire est bien meilleure dans les situations qui ont été investies émotionnellement. Donc, questionner sur des comportements ou des situations qui ont suscité des fortes émotions permettent en général d'obtenir des réponses beaucoup plus fiables. Troisièmement, il est possible aussi de mieux stimuler la mémoire de l'individu enquêté en simplement lui proposant de répondre au questionnaire dans le contexte de production du comportement. Vous l'interrogez sur sa pratique professionnelle, vous pouvez passer le questionnaire dans le contexte professionnel. Vous l'interrogez sur sa scolarité, ça peut être utile et pertinent de passer le questionnaire dans le cadre de l'école, du collège ou du lycée, etc. Une autre façon d'essayer d'améliorer les questions qui seraient susceptibles d'être soumises à un biais de mémoire, c'est de demander aux individus de reconnaître plutôt que de se souvenir. Par exemple, vous pouvez leur proposer une liste des films qui sont passés la semaine dernière dans la ville dans laquelle ils habitent et leur demander de reconnaître quels films ils ont été voir. Vous avez beaucoup, beaucoup plus de chances d'obtenir les bons titres, les bons réalisateurs, etc., simplement parce que vous ne leur demandez pas de se souvenir de la totalité de ces informations, mais plutôt que de les reconnaître parce que vous les leur proposez. Enfin, une autre manière de travailler sur les enjeux de mémoire, ça peut être de demander à la personne de se souvenir de la situation dans laquelle elle a produit le comportement avant de répondre aux questions que vous lui soumettez. Maintenant, nous allons travailler la formulation des questions relatives à un comportement gênant. Alors, il y a deux grandes tendances qui produisent des biais quant à la sincérité des réponses aux questions que vous proposez et qui donc sont des biais qu'il faut anticiper et réguler de manière quasi systématique lorsque les comportements sont gênants, tabous, illégaux, etc. Le premier biais est appelé le biais de désirabilité sociale. Le deuxième biais est intitulé le biais d'indésirabilité sociale. Le biais de désirabilité sociale, c'est un biais qui fait que les individus vont répondre non pas le comportement qu'ils ont effectivement mis en œuvre, mais qu'ils vont vous répondre de manière à avoir l'air soit normal, soit de manière à vous plaire, à correspondre à ce qu'ils imaginent être vos attentes ou vos valeurs. Le biais d'indésirabilité sociale, au contraire, ce sont des individus qui vont peut-être être davantage sincères au sens où ils vont vous dire une partie de ces comportements gênants, mais ils vont en minimiser la portée ou ne pas vous en dire la totalité. Autrement dit, une partie de la réponse n'est pas amenée parce que vraiment, elle risquerait trop pour l'enquêté de vous amener à avoir un jugement négatif sur sa personne. Alors, je vous propose un exercice très simple. Je vous laisse un petit temps de réflexion pour imaginer des questions pour lesquelles la probabilité est très faible d'obtenir beaucoup de réponses sincères. Voici quelques réponses que vous auriez pu fournir à la question. Donc là, vous pouvez par exemple poser la question: êtes-vous sexiste ou êtes-vous raciste? Et vous verrez que la plupart des gens ne vous répondent pas oui, même si ça les concerne et même s'ils le savent pertinemment. Et si vous voulez savoir si ces personnes sont sexistes ou racistes, il va falloir poser votre question autrement. Pensez-vous que certaines races sont intellectuellement inférieures? C'est pareil, il est peu probable que beaucoup d'individus vous disent oui, même si certains le pensent. Pour information, je tiens à préciser que le concept de race n'est pas valide aujourd'hui scientifiquement, mais néanmoins, ça fait partie des questions qu'il faut aussi, pour d'autres raisons, ne pas poser, simplement parce que les gens ne vous répondront jamais sincèrement ou très peu d'entre eux le feront. Prenez-vous des risques au volant? Peu de gens vont vous dire qu'ils sont des fous du volant. Peu de gens admettront qu'ils sont des clients de réseaux de prostitution ou de pédophilie. Et c'est vraiment en général les gens qui vous font extrêmement confiance qui finissent par vous, non pas vous dire, mais vous avouer qu'ils font des fausses déclarations de revenus aux impôts. Ils n'aimeraient pas que ce genre d'informations remonte jusqu'à la direction des impôts. Voilà, donc il y a des quantités de questions qu'on ne peut absolument pas poser en termes de comportement, mais qui pourtant sont particulièrement intéressantes quant à l'usage qu'on peut en faire pour comprendre la population française. Donc ce ne sont pas des thèmes qu'on ne peut pas investiguer. Ce sont des questions qu'on ne peut pas formuler ainsi. Comment fait-on donc quand on souhaite travailler ce type-là de comportement, mais que dans le même temps, on sait que les individus seront extrêmement réticents à donner une version réaliste des faits? Alors, il y a plein de manières de formuler, et là, vous allez voir que finalement, le sociologue, volontairement, va avoir une formulation qui n'est pas neutre, mais qui induit une forme de jugement, puisqu'il va proposer, par exemple, une certaine permissivité dans la manière dont il formule la question. Alors, par exemple, concernant le fait d'être quelqu'un qui dépasse régulièrement la limitation de vitesse, vous pouvez, pour établir un climat permissif, introduire votre question par... On sait que nombre de nos concitoyens dépassent de manière assez régulière la limitation de vitesse autorisée. Faites-vous partie de ceci? Vous voyez bien que finalement, vous dites à l'individu qui répondrait oui, qu'il fait partie d'un grand nombre, et que donc finalement, ce n'est pas si grave que ça. Vous avez introduit un climat permissif qui fera que beaucoup plus d'individus accepteront ou se sentiront autorisés ou se permettront de répondre plus sincèrement à la question que vous posez. Pareil, si vous souhaitez que les individus n'aillent pas trop vite vers la réponse qui permettrait d'être l'individu le plus normal ou le plus intéressant, etc., vous pouvez essayer de limiter le recours à la réponse attractive par le rappel des comportements habituels. Alors, ça peut tout simplement se formuler de la manière suivante. On sait que habituellement les individus font, etc., etc. Qu'en est-il d'eux? Et là, la plupart des enquêtés, parce que vous aurez rappelé un certain nombre de comportements habituels qui ne sont pas permis, qui sont un peu tabous, voire honteux, mais qui sont présentés comme courants, et parce que vous les aurez rappelés, accepteront de les cocher comme étant effectivement des pratiques qu'ils ont. Vous pouvez induire un climat rassurant, vous pouvez minimiser le caractère non conforme du comportement évoqué, vous pouvez proposer un large éventail d'alternatives qui sont pour certaines dans ce qui est usuellement considéré comme normal, mais pour une grande part d'entre elles, justement pas. Et puis, vous pouvez aussi, quand vraiment les questions sont très taboues, ou pourrez mettre les individus en situation d'inquiétude quant à l'usage des réponses qu'ils vous auraient fournies, mettre en œuvre une procédure spécifique garantissant l'anonymat. Autrement dit, la passation de questionnaires peut prévoir que les questionnaires d'abord soient rendus de manière cachetée dans une enveloppe qui sera fermée, mais aussi que cette enveloppe soit posée dans une urne et que donc elle soit mélangée à un nombre d'autres enveloppes qui permettront pas donc de pouvoir retrouver la personne. Voilà, donc il y a cette procédure-là, il y en a d'autres qui existent, mais en tout cas, il faut les penser de manière à ce que les individus puissent être rassurés quant au fait qu'effectivement, l'anonymat sera bien respecté. Les questions d'opinion. Alors, les questions d'opinion sont des questions qui sont en général très appréciées des enquêtés parce que les individus se sentent valorisés par le fait qu'on prenne en considération leur avis, qu'on les prenne au sérieux. Et donc, se sentent valorisés pour eux-mêmes. Cependant, dans ce type-là de questions, on a pu constater un biais récurrent dans la mise en œuvre de la réponse. C'est une tendance à répondre très rapidement, parce que pour l'individu, ce qu'il en pense est assez évident, et donc il va aller vite et se débarrasser du questionnaire. Donc, pour les questions d'opinion, il faut tenter de produire une formulation ou une mise en forme du questionnaire qui force l'individu à prendre son temps, à réfléchir et à pas répondre de manière trop lapidaire. Alors, pour ce faire, une des pratiques courantes, c'est de proposer une variété de présentations des possibilités de réponse. Comme ça, l'individu doit à chaque fois se repositionner pour voir, en fonction des différentes modalités de réponse, comment il va pouvoir effectivement se positionner. Ça lui demande donc, parce que, il n'y a pas une répétition des modalités de réponse, de réfléchir à chacune des croix qu'il va pouvoir rédiger. Alors, vous avez d'abord l'échelle unidimensionnelle. Alors, vous en avez un exemple. Que pensez-vous du dernier film de George Clooney? Une échelle unidimensionnelle n'investit qu'une seule dimension, et en l'occurrence, la dimension de l'intérêt. Très intéressé, assez intéressé, peu intéressant, pas du tout intéressant. Vous voyez bien que si vous passez à la question suivante et que vous vous retrouvez avec une formulation en termes d'échelle bipolaire, l'individu ne se retrouve pas avec les mêmes modalités de réponse et donc il va devoir réfléchir avant de pouvoir se positionner. Donc là, exemple d'échelle bipolaire, actuellement, diriez-vous que votre douleur est peu gênante, gênante, difficilement supportable, tout à fait insupportable? Vous pouvez proposer des questions à choix forcé. Alors, choix forcé, c'est lorsque vous souhaitez effectivement pouvoir déterminer deux populations, ou plusieurs d'ailleurs, ça peut être davantage de choix, mais en tout cas, contraindre les individus à se positionner. Là, l'exemple qui est choisi, certains disent que les citoyens devraient pouvoir participer davantage aux décisions prises au niveau municipal. D'autres, au contraire, affirment que c'est le rôle des élus de prendre des décisions et non pas celui des citoyens. Quelle opinion se rapproche le plus de la vôtre? Une participation citoyenne amplifiée ou des décisions prises par les élus? Vous voyez bien qu'il existe tout un panel d'autres réponses qui sont peut-être celles auxquelles adhèrent les enquêtés qui répondent à votre questionnaire, mais pour autant, la manière dont tout ceci est formulé leur impose de cocher soit une case, soit l'autre. Là, vous imaginez bien que la réflexion va être d'actualité. Autre option de présentation, les options de classement ou de préférence. Voici un exemple. Parmi la liste suivante, quels sont les compositeurs dont vous appréciez écouter la musique? Les consignes entre parenthèses et ensuite donc la déclinaison des propositions offertes à l'enquêté. Avec ou sans position intermédiaire pour donc ces questions qui portent sur des échelles. Donc, on se l'est déjà dit, la position médiane est souvent perçue comme neutre par les répondants et elle est très largement choisie par les indécis, ceux qui ne veulent pas s'impliquer, ceux qui ne veulent pas s'exposer ou encore les indifférents. Donc, suivant vos objectifs, vous produirez ou pas une position médiane. Et donc, si vous voulez apprécier l'avis d'une population, vous allez proposer ou pas l'item sans opinion. En l'occurrence, voici un exemple. Lors des prochaines élections présidentielles, pensez-vous voter pour Tartempion, Bidule Truc ou sans opinion? Que va changer l'introduction de l'item sans opinion? Si, comme dans la modalité de formulation de la réponse précédente, c'est-à-dire le choix forcé, vous aviez imposé aux individus de choisir entre Tartempion et Bidule Truc, vous auriez eu peut-être, par exemple, des réponses 51% pour Tartempion et 49% pour Bidule Truc. Lorsque vous introduisez l'item sans opinion, cela modifie considérablement les pourcentages obtenus. Et par exemple, vous pouvez obtenir 35% pour Tartempion, 25% pour Bidule Truc et le restant pour sans opinion. Donc, suivant ce que vous voulez obtenir comme résultat, c'est-à-dire déterminer quel est le candidat qui a le plus de chances de passer au présidentiel ou déterminer davantage quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'opinion par rapport à chacun des candidats et éventuellement les indécis, il vaut mieux dans ce cas-là effectivement produire l'item sans opinion dans les réponses proposées. Ceci dit, ne pas utiliser l'item sans opinion, c'est imaginer que tous les répondants ont une opinion, ce qui n'est pas le cas. Alors, les questions d'intention. Les questions qui portent sur un futur plus ou moins proche. Permettent rarement d'obtenir des réponses fiables. En effet, il y a toujours un écart de comportement, d'action, de réponse en situation ou lorsque la situation n'existe pas encore. Deuxièmement, on sait aussi que lorsque les réponses n'engagent pas, puisque la situation n'existe pas, les réponses données sont beaucoup moins réfléchies et mûries. Autrement dit, les réponses sont beaucoup moins fiables. Donc, par conséquent, on mobilise peu les questions d'intention, sauf si on souhaite produire une enquête prospective, donc qui permette d'envisager un futur. Ça peut avoir du sens, notamment dans le cadre d'enquêtes qui porteraient sur des politiques publiques dont on se demanderait comment les adapter dans un futur proche. Et donc, l'enquête porterait sur des questions d'intention. Mais dans un contexte dont on estime qu'il serait à peu près similaire à celui qui est contemporain. Donc là, ça pourrait avoir du sens dans la mesure où on pourrait contextualiser les questions en précisant dans le cadre des consignes que dans le contexte qui est celui-ci, en imaginant qu'il perdure, quelle réponse serait donnée par les individus. Voilà, donc là, les individus peuvent s'investir et peuvent s'imaginer réellement dans la situation parce qu'ils en connaissent le contexte. Sinon, ce type de question, peut être intéressant, mais uniquement, à visée comparative. On peut dire, les Français à telle époque se projetaient plutôt de telle manière, aujourd'hui, ils se protègent, ils se projettent plutôt de telle autre. Voilà, donc dans une visée comparative, les questions d'intention peuvent par contre avoir leur intérêt puisqu'elles permettent de déceler des différences dans le rapport à un futur proche ou éloigné. Les questions de connaissance. Alors, ce qui a été constaté de manière récurrente et quasi systématique, c'est que beaucoup d'individus se sentent mal à l'aise de reconnaître qu'ils ne savent pas. L'ignorance est quelque chose de plutôt mal vécu et dont la plupart des personnes imaginent que ça pourrait avoir comme conséquence qu'elles seraient jugées plutôt défavorablement. Autrement dit, les enquêtés vont avoir tendance à répondre même s'ils ne savent pas et à faire croire qu'ils savent. Donc pour éviter ce biais, il est possible d'abord, bien sûr, évidemment, d'introduire l'item je ne sais pas ou je n'ai pas d'avis, qui permet de montrer au répondant qu'il est tout à fait autorisé de ne pas avoir d'avis et que même c'est une proposition que vous leur faites. Deuxièmement, pour que les individus ne se sentent pas dans une situation d'évaluation de leurs connaissances, vous pouvez aussi, dans ce cas-là, on va dire, utiliser des formulations qui ne sont pas strictement la question que vous posez, mais qui rendent plus acceptable le fait de ne pas savoir. Et en l'occurrence, pouvez-vous vous rappeler d'eux? Permet aux individus d'avoir l'excuse, s'ils ne peuvent pas répondre, s'ils ne savent pas, de mettre en avant leurs problèmes de mémoire. Vous pouvez aussi opter pour une formulation en termes d'opinion. À votre avis, que signifie? Et là, vous voyez si la personne peut répondre à votre question, c'est qu'elle sait. Et si elle ne peut pas répondre à votre question, si pour elle ça signifie pas grand-chose, bah, vous savez que, elle ne connaît pas les éléments sur lesquels vous l'interrogez. Ce qui permet quand même de connaître l'état des lieux, de connaître, d'évaluer son niveau de connaissance, tout en lui permettant de sauver la face simplement parce que elle n'a pas d'avis sur la signification de tel ou tel élément. Enfin, de manière générale, lorsqu'il est important de poser des questions de connaissance, évitez de mettre les individus que vous interrogez en difficulté et donc soyez vigilant à adapter le niveau de difficulté au niveau de connaissance que vous pouvez estimer ou au niveau des prérequis des enquêtés. Un questionnaire sociologique se termine en général par les renseignements synalytiques. Alors, tout d'abord, revenir sur une tendance courante des étudiants, mais une tendance malheureuse, c'est de mettre les renseignements synalytiques en premier, comme si l'individu que vous enquêtiez devait finalement répondre à un formulaire administratif, et donc devait d'abord décliner son identité, son sexe, son âge, son niveau de revenu, etc. Vous comprenez bien que ce type-là de présentation est très peu appétante, que l'individu se sent du coup face à un document qui commence d'abord par lui demander des informations qu'il n'a pas nécessairement envie de divulguer, il n'a pas forcément envie de donner son niveau de diplôme ou son niveau de revenu. Et puis en plus, tout ce qui est administratif est souvent vécu comme rébarbatif. Donc, pour toutes ces raisons, et puis simplement parce que c'est une manière de communiquer qui est peu agréable, l'individu est plus intéressé par les questions qui relèvent du contenu de votre enquête que par les renseignements qui permettent de l'identifier. On ne commence pas par les renseignements signalétiques. Ceci dit, elles sont utiles, ces questions, et donc on les pose de manière systématique, notamment parce qu'elles permettent de faire des liens de corrélation avec d'autres variables qui auront été testées dans le cadre du questionnaire, ou des liens de causalité. Donc les renseignements synalytiques sont mis à la fin, ils signalent donc finalement que le questionnaire se termine et ils visent donc à décrire les répondants. Ce sont souvent des renseignements signalétiques qui sont pensés à la fois dans les items courants, mais à la fois dans des items très spécifiques à l'enquête et qui permettent de vérifier les hypothèses. Donc en fonction des objectifs de l'enquête, on peut, on va dire, déterminer un certain nombre de renseignements signalétiques utiles. Par exemple, vous faites une enquête sur les résidences principales. Vous pouvez poser en termes de renseignements signalétiques des questions qui portent sur le nombre de résidences secondaires. Voilà. Ça n'aurait pas été très opportun de les positionner en début de questionnaire, ne serait-ce que parce que les gens se seraient sentis évalués sur leur patrimoine et donc jugés. Mais ceci dit, arrivant enfin et arrivant dans le cadre de renseignements signalétiques, c'est jugé comme simplement étant des éléments d'information complémentaires pour permettre de traiter les données. Dans le cadre de la formulation des renseignements signalétiques, il peut être opportun et judicieux de mobiliser les catégories qui sont utilisées par les statistiques officielles. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de comparer votre population enquêtée à des populations plus vastes et qui auront été travaillées dans le cadre d'échantillons représentatifs par des organismes officiels. Les renseignements signalétiques les plus usuellement documentés sont le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'instruction et le niveau de revenu. Alors, pour le sexe, en France, c'est généralement masculin-féminin. Sachez qu'aux USA, le troisième sexe est aujourd'hui une pratique courante. Pour l'âge, sachez poser votre question de manière très claire et très précise pour ne pas obtenir quelque chose qui serait difficile à traiter ensuite. Donc, soit vous demandez l'année, soit vous demandez l'âge, mais en chiffres, soit vous demandez la date d'anniversaire. Mais sachez que si vous demandez simplement, vous demandez aux individus de formuler leur âge, très probablement, vous obtenez le trois types de réponses. Donc non, il faut proposer aux individus quelque chose de très cadré qui permette que vos réponses soient ensuite traitables et comparables. La CSP, c'est pareil, on propose l'ensemble des CSP, les individus n'ont plus qu'à cocher, le niveau d'instruction, idem. Le niveau de revenu est une question très courante aux États-Unis ou au Canada et pour lequel on n'obtient pas toujours des réponses très fiables en France, à savoir. Maintenant qu'on sait formuler les questions, faut-il pouvoir construire le questionnaire une fois que l'ensemble des questions ont été produites? Donc les questions ont été choisies en lien avec les hypothèses ou encore en fonction des objectifs de l'enquête. Autrement dit, je vous le rappelle, si maintenant on sait les formuler, ces questions ont néanmoins été formulées sur la base de la volonté de répondre et de documenter chacune des dimensions du modèle d'analyse. Le modèle d'analyse a été construit dans le cadre de la production de l'objet scientifique. Et donc, je vous renvoie soit au module 1 de ce cours, soit à l'enseignement produit par Émilie Potin sur le raisonnement sociologique. Simplement, une fois le modèle d'analyse construit, à chaque dimension, vous aurez une ou plusieurs questions, voire une question par indicateur produit. Ça vous permet donc, pour chaque indicateur, c'est-à-dire pour chaque variable, de pouvoir produire un test. Ensuite, la mise en forme du questionnaire est classiquement la suivante. Tout d'abord, le questionnaire est introduit par un titre, une courte présentation de la recherche, en général de la thématique, et ensuite quelques consignes qui permettent aux individus de se repérer facilement dans le cadre de l'outil qui leur est proposé. Les questions sont présentées par thématique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 thématiques, et les questions sont rangées sous chacune des thématiques. Chaque question est numérotée. La numérotation ne vise pas, on va dire, un usage facilité pour le répondant, mais vise surtout de pouvoir identifier les questions dans le cadre de l'entrée des réponses pour le logiciel. Les thématiques sont ordonnées de façon logique pour le répondant et non pas pour le sociologue. Autrement dit, il faut que le répondant se sente à l'aise avec et les thématiques et les questions qui lui sont proposées, qu'il trouve ça, on va dire, cohérent au regard de l'expérience et au regard de ce qu'il sait du thème sur lequel vous cherchez à investiguer. Ça veut dire, cela induit que les questions ont été produites en général dans l'ordre du modèle d'analyse et elles sont proposées à l'enquêté dans un ordre qui lui semble pertinent. Il s'agit donc de deux ordres différents. Le questionnaire se termine par des remerciements. Enfin, toujours pour des questions de mise en forme, le type des questions est varié pour éviter l'ennui ou la perte de concentration chez l'enquêté, et d'autant plus sur les questions d'opinion, on l'a déjà dit. Les questions doivent être facilement compréhensibles et de façon univoque. Autrement dit, vous les aurez testées de manière à savoir si tous les individus peuvent se les approprier et y répondre, et surtout s'ils lisent tous la même question ou si votre formulation induit ou pas trois ou quatre interprétations de votre question. Voilà, donc il faut que votre question telle qu'elle est formulée soit et compréhensible d'une seule manière. Enfin, les questions donc vont être formulées de façon à limiter les sentiments de gêne, d'embarras, de honte et donc à permettre de recueillir le matériau le plus fiable possible. En conclusion, dans ce module, nous avons vu que le questionnaire sociologique n'est pas l'équivalent d'un sondage, qu'il a d'autres objectifs et qu'il n'est pas construit de la même manière. Deuxièmement, nous savons qu'à différents types de questions correspondent différentes façons de formuler. Et enfin, que le questionnaire est construit de manière à en faciliter l'usage pour l'enquêté et non pas pour le sociologue. Dans le prochain module, nous verrons comment concevoir un entretien.